Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission Grand Large qui a pour thème aujourd'hui les migrants. Alors nous accueillons Michael, bonjour Michael.
Bonjour Galad.
Rami, bonjour.
Bonjour.
Et Valentin, bonjour.
Bonjour Galad.
Alors, cette émission est animée par l'équipe de propédeutique. Michael, un petit rappel de ce que c'est que la propédeutique ?
Alors, la propédeutique, c'est une année de discernement qui dure 9 mois et nous sommes là pour discerner sur notre vie religieuse, si on veut rentrer ou pas au séminaire ou revenir à la vie active.
Donc, pour devenir prêtre éventuellement ?
Prêtre ou rentrer dans les ordres.
D'accord. Alors, on va commencer par Rami, puisque Rami, tu viens d'Irak.
Oui.
Tu es arrivé en France en 2010.
C'est ça.
Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ?
Oui, en fait, j'ai habité à Bagdad avec mes parents. Et je voudrais juste préciser d'abord que notre première immigration, ce n'était pas vraiment en France. Mais c'était en Irak même, chez moi. Ça, c'était en 2007. Nous avons habité dans un quartier sunnite qui s'appelait Dora, qui se trouve à l'ouest de Bagdad, jusqu'en 2007, évidemment. Et nous avons quitté notre maison à cause de l'arrivée de Al-Qaïda. Parce qu'en fait, Al-Qaïda s'était arrivé après la guerre. Après 2003, c'était 2007 à peu près. Alors, notre quartier qui faisait expulser les chrétiens en les menaçant.
D'accord, donc tu subissais des persécutions ?
Oui, c'est ça. En fait, c'était pour contre les chiites et les chrétiens en même temps.
D'accord. Et c'était quoi comme persécution ? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ?
Alors, parce qu'en fait, notre quartier, c'était... Il y avait beaucoup de chrétiens. Donc, les Qaïda, vous connaissez, je pense, tous les Qaïda, c'était un peu... C'était contre tout le monde. Et ils ont leur réflexion un peu radicale, très radicale. Donc, on était obligé de quitter. Quitter le quartier, diriger vers un autre quartier. Soit, quelquefois, il faut payer un peu d'argent. Mais de toute façon, on ne peut pas avoir la sécurité avec tout cela.
D'accord.
Évidemment.
Alors, on va revenir à toi, Rami, tout à l'heure. Je voulais juste vous dire quelques chiffres. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de migrants en ce moment. Alors, il faut savoir qu'en 2017, il y a eu plus de 100 000 demandes d'asile. Donc c'est le chiffre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et donc ça représente une progression de 17% par rapport à 2016. Alors Valentin, ça fait quand même beaucoup de personnes qui arrivent en France. Quelle est la parole de l'Église là-dessus ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors l'Église a une parole forte sur l'immigration qui est relayée depuis plusieurs années par le pape François tout particulièrement. Mais il faut savoir que l'Église a une parole ancienne sur l'immigration, puisque dès 1914, le pape de cette époque, qui s'appelle alors Benoît XV, il institue la Journée mondiale des migrants, donc ça a lieu le 14 janvier. Donc ça, c'est le signe que cette question est prise en compte par l'Église. La direction qui est prise par l'Église, elle est précisée par l'encyclique, donc ça, c'est un texte majeur, qui s'appelle Pacem in Terris, ça veut dire paix sur la terre, du pape Jean XXIII en 1963. Donc lui, il nous dit que tout homme a aussi le droit, moyennant des motifs valables, de se rendre à l'étranger et de s'y fixer. À ce moment-là, ça veut dire que c'est la première fois que l'immigration est désignée par une encyclique comme un droit de l'homme. L'Église catholique, qui s'appuie aujourd'hui principalement sur le Concile Vatican II, il date de 1965, lui, parle également de ce droit à émigrer, motivé par des mutations profondes du monde.
D'accord, donc... voilà pour ce que dit l'Église, mais je sais que le pape François a eu des paroles fortes aussi ces derniers temps, Michael.
Oui, tout à fait. Dans les dernières paroles fortes ont été lors de sa messe de minuit au Vatican. Et puis, je voulais juste avant de ça de revenir un petit peu à ce qu'a dit Valentin. Donc, c'est vrai que dimanche 14 janvier, nous avons vécu la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Nous avons eu la chance de la vivre dans le diocèse Saint-Dié-des-Vosges. Et le prêtre, lors de sa messe du matin et durant son homélie, il nous a bien dit une phrase très importante. « Nous sommes tous des étrangers pour l'autre, mais nous sommes tous frères dans le Christ. Le pape a dit que la question des migrants ne date pas d'hier. Déjà dans le temps, la Sainte Vierge Marie et Joseph ont dû tout quitter pour aller donner naissance au Sauveur du monde, à Bethléem. Le pape y disait aussi, dans les pas de Joseph et Marie, nous voyons les traces des familles entières qui aujourd'hui se voient obligées de partir, de quitter leur terre, leur famille, leurs amis, leur travail. Nous voyons là-dedans les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s'en aller, mais qui sont obligées de se séparer de tout.
D'accord, oui, parce que bien sûr, on quitte pas sa famille, un pays, pour rien, j'ai envie de dire. Il y a une raison, que ce soit économique, que ce soit politique, à cause de la guerre.
La guerre, surtout.
Mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit à propos de... Tu as dit Jésus a dû quitter... Enfin, Joseph et Marie, avec Jésus, ont dû quitter leur terre, Nazareth. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça signifie, pourquoi ils ont dû partir?
Eh bien, on peut trouver un passage de la Bible à Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 23. Mais j'ai pas tout résumé. Je vais vous lire le verset 12 à 14, un des plus importants. Puis averti dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa femme, et se retira en Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, ils se mirent une grande colère. Il lui envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire.
Merci Michael. Donc cette parole de Dieu qui nous dit vraiment que Jésus finalement a vécu lui aussi l'exil. On va écouter une chanson qui s'appelle Le cri d'Alep d'Éphrangine et on se retrouve tout de suite après.
Comme je l'ai rêvé si fort,
j'étais, je crois, frôlé du doigt, sans jamais vraiment te toucher. Il me faudra du temps, je crois, pour un jour jamais t'embrasser.
Tu sais, j'ai cru t'entendre rire, j'en garde moi le souvenir.
Je me rappelle, c'était hier, ou quelque part dans ma mémoire.
J'ai tenté de fermer les yeux,
j'ai attendu.
Je t'ai connu, je t'ai connu. Je ne suis plus qu'une ville en cendres. Sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagues restes de toi, de quelques bouts de vie. Tu vois, non, jamais je ne t'ai oublié. Je t'ai gardé, je t'ai gardé. Je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'au creux de ma citadelle. Pour toi je resterai debout, mon tendre espoir, comme j'ose y croire. Et je te chanterai jusqu'au dernier soupir, jusqu'au dernier rempart, jusqu'au dernier regard.
Dans le feu, dans le fer, je brandirai ton nom. Dans la folie guerrière, je porterai ton blason.
Mon tendre espoir, quand vient le soir,
tu t'évanouis, tu fuis, tu fuis.
Oh, mais je te garde, c'est promis.
Même au tréfonds de longues nuits.
Et
quand vient l'aurore se pose, ton souffle sur mes échymoses, tu viens les guérir en silence, ton souvenir seul les pense. Je ne suis plus qu'une ville en cendres, sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagrettes de toi, de quelques bouts de vie, tu vois, non jamais je ne t'ai oublié. Je t'ai gardé, je t'ai gardé, je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'au creux de ma citadelle. Je ne suis plus qu'une ville en cendres, sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagresses de toi, de quelques bouts de vie, tu vois, non jamais je ne t'ai oublié. Je t'ai gardé, je t'ai gardé, je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'à la dernière étincelle.
Et nous revoilà dans l'émission Grand Large avec moi-même qui la présente, Galad, avec de nouveau Mickaël, Rami et Valentin. Alors Rami, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu as dû quitter ton pays, donc tu es arrivé en France. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu des difficultés? Comment tu as été accueilli en France?
Alors, après tous ces événements un peu difficiles, et surtout la persécution, les violences, les conflits, on a décidé de quitter l'Irak et de migrer dans un autre pays. Et je me rappelle en 2010, sous Sarkozy, le gouvernement français a accueilli un certain nombre d'Irakiens. Et comme mon cousin qui habite à Paris depuis plus de 15 ans, il est prêtre chez les Dominicains, donc c'est lui qui a fait toutes les démarches administratives pour notre venue en France. Et c'était, ça c'était difficile bien sûr, pour faire toutes les démarches administratives, et surtout il faut attendre, il faut avoir la patience, tout cela. Alors nous sommes arrivés en France et nous sommes restés à peu près un an et deux mois dans une résidence sociale pour le réfugié à Senlis, qui est une petite ville pas très loin de Paris, près de Paris. Et surtout pour faire les papiers administratifs. Et après avoir eu la carte de séjour pour 10 ans, nous avons dû quitter le foyer pour aller chercher un autre logement. Et ça, c'était plus difficile.
D'accord. Pourquoi c'est difficile de trouver un logement?
Parce que en fait, parce que tout d'abord, la première chose, c'est très difficile pour le travail. Et si on va, si on cherche un logement, et on nous demande le contrat de travail. Parce que, d'accord, voilà, pour avoir un salaire, et ça, c'est très difficile.
Et j'imagine que, donc tu es venu avec toute ta famille.
Ouais.
J'imagine que tu as dû quitter des gens aussi, peut-être, qui sont restés en Irak.
Oui, ce qui est le plus difficile pour nous, en fait, c'est la dispersion de la famille. Par exemple, mon grand-père et ma tante sont à Bagdad encore. Mes oncles, par exemple, sont aux États-Unis et au Liban, sans compter les autres. Alors, un peu partout, alors ça, c'est difficile.
D'accord.
Ça, c'est très difficile.
Et est-ce que toi, tu peux retourner en Irak?
Non, en fait.
Maintenant, est-ce que la situation a changé?
En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de réfugiés. Par exemple, il y a les réfugiés politiques. Il y a les réfugiés économiques. Et c'est différent, c'est pas le même. Pour ceux qui sont, par exemple, réfugiés politiques, on peut pas rentrer chez nous.
D'accord.
On peut pas rentrer chez nous parce que ça, c'est avec les lois de Genève, je pense. Il est marqué dans le droit de... Oui, c'est ça. Donc, non, on peut pas.
D'accord. On peut pas. Sauf peut-être une fois que tu as eu... la nationalité française.
Exactement.
C'est ça, ouais. Mais ça prend beaucoup de temps.
Bah oui, ça prend de temps, c'est pas facile.
D'accord.
Ouais, c'est difficile, ouais.
Merci Rami. Alors Valentin, j'aimerais te poser la question, je vais être un peu provocateur, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors l'Église a une parole, bien sûr, d'accueil, de compassion. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Oui, alors là, on est sur le sujet sensible, tant sur le plan politique, mais qui se répercute aussi chez les chrétiens. Ah, on a entendu, en fait, il y a des paroles très fortes et très précises dans la Bible, est des événements forts dans la vie de Jésus, à savoir que le Christ a été lui-même un migrant, qui enclenche forcément une réaction et une action de l'Église. Donc les papes ont précisé la pensée de l'Église le siècle dernier. Ces orientations se traduisent concrètement dans la vie de l'Église, à savoir qu'il y a un service qui est dédié à la pastorale des migrants et des personnes itinérantes. Donc son rôle va être d'organiser des actions de soutien et de solidarité avec les migrants pour exprimer la sollicitude de l'Église et témoigner ainsi que l'amour du Christ rejoint tous les hommes, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Les migrations, c'est un phénomène impressionnant parce que les migrants sont nombreux, parce que ça soulève des problématiques sociales, culturelles, économiques et politiques dans les pays d'accueil. Et ces questions, on le sait, elles sont présentes en Europe depuis plusieurs décennies. Et on le constate, bien évidemment, en regardant la vie politique européenne. Je voulais vous partager une piste de réflexion qui est proposée par un théologien français qui s'appelle Étienne Grieux, autour de l'attitude bienveillante de l'Église concernant l'accueil de l'étranger. L'étranger empêche de se vautrer dans le confort des règles du jeu d'une société comme dans un canapé. La présence de l'étranger oblige à discuter de l'autre. Qu'est-ce que vivre ensemble dans la justice et la fraternité veut dire et comment est-ce qu'on l'organise? La pensée sociale de l'Église concernant l'immigration n'a qu'un seul but en fait, c'est montrer de manière paisible, dans la foi, c'est-à-dire la confiance, qu'un chemin est possible pour affronter les détresses humaines. Faire l'expérience, la rencontre de l'autre, c'est un rendez-vous avec le Christ. Et si les chrétiens, les citoyens, acceptent de se laisser faire pour se livrer à l'autre, alors le phénomène de l'immigration va résonner comme une expérience pascale. C'est un signe de confiance radicale dans le Christ qui montre les chemins que la foi peut ouvrir vers l'inconnu.
Rami, Valentin nous parle de finalement cette charité chrétienne qui nous pousse à accueillir l'étranger dans la misère. Est-ce que toi, tu as été aidé en France quand tu es arrivé? Est-ce qu'il y a des associations qui t'ont aidé? Voilà, comment ça s'est passé?
En fait, parce qu'il y a en France une organisation, ça c'était en 2010, il y a une organisation pour accueillir les réfugiés, les réfugiés légaux.
D'accord.
Parce que c'était avant, il faut demander un dossier et ça dure à peu près 2 ans pour remplir le dossier. Alors il faut attendre. Et après, le plus compliqué, c'était pour faire les démarches administratives. Ça, c'est très compliqué. Et il faut toujours quelqu'un qui vous aide pour faire tout cela.
Oui, j'imagine surtout qu'on ne connaît pas la langue, etc.
Oui, ça, c'est d'autres difficultés, la langue. C'est très difficile. Et surtout pour nous qui viennent d'Irak, on ne connaît pas le français. On ne fait pas le français chez nous. On ne fait que l'anglais et voilà.
Tu as eu des cours de langue?
Oui, oui. Parce que pour les réfugiés, normalement, ils ont à peu près 250 heures, je pense, gratuits. D'avoir un cours gratuit. Parce qu'après, ça devient payant.
D'accord.
Ouais. Et maintenant, c'est maintenant le plus difficile pour avoir un cours gratuit. Même si pour 250 heures, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés maintenant, et ça devient de plus en plus difficile pour avoir un cours gratuit.
Michael, est-ce que tu voulais réagir?
Ben moi, je voudrais réagir parce que le pape, il nous a dit 4 beaux verbes lors de sa homélie, les verbes accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Dans le verbe accueillir, il voulait dire qu'as-tu fait de ton frère? Et en mars dernier, la conférence des évêques de France, en partenariat avec le Secours catholique, la Fédération protestante, la Fédération d'entraide protestante de France, ont signé avec l'État un protocole portant sur la mise en place de couloirs humanitaires permettant à 500 personnes parmi les plus vulnérables actuellement réfugiées au Liban de venir en France pour y demander l'asile. S'il demeure modeste, ce chiffre, ce programme n'est pas moins précieux, notamment par son caractère modélisant. L'immigré qui réside avec vous sont parmi vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même, car vous êtes avec moi, un immigré au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ce petit passage, on peut le retrouver au Lévite, chapitre 19, verset 34.
Merci, Michael. Alors, j'aimerais qu'on écoute une prière qui s'appelle celle du Notre Père, que tous les chrétiens prient. C'est une chanson en arabe, parce que tout à l'heure, donc, on a entendu le cri d'Alep, qui est une ville de Syrie qui a beaucoup souffert hein, de la guerre. Alors maintenant, on va écouter ce chant du Notre Père en arabe. Voilà à nouveau sur l'émission Grand Large pour parler des migrants. Alors Valentin, tu nous as dit tout à l'heure la parole de l'Église qui est, si je résume, une politique d'accueil finalement charitable pour les migrants qui sont souvent dans la misère.
Tout à fait, oui.
Que nous dit la doctrine sociale de l'Église? Enfin, pourquoi finalement c'est important cet accueil?
En fait, on a entendu Michael qui précisait... Les autres églises chrétiennes également, pas seulement les catholiques, mais s'engagent auprès des politiques sur la question des migrants. Mais on le perçoit tous, et les auditeurs sans doute aussi, que l'immigration, c'est vraiment un des sujets où semble s'opposer parfois la fidélité à l'évangile, donc des croyants, et les choix politiques de chacun. On le sait que pour les catholiques, c'est un point de crispation chez de nombreux fidèles qui ne veulent pas entendre, plus ou moins ouvertement, la voix des évêques sur ce sujet. Et pourtant, l'enseignement social de l'Église met la notion de bien commun au centre de tout, et un chrétien doit viser en plus le bien commun universel, ce qui peut alors le mettre en rupture de ban avec la communauté nationale. Cette situation n'est clairement pas un objectif recherché ni par l'Église ni par les chrétiens, pour qui l'intérêt national doit légitimement être pris en compte. Toutefois, en tant que membre d'une Église catholique, et là, je réponds à ta question. Catholique, ça veut dire universel. Les chrétiens sont invités à aborder la question des migrations dans une logique de choix élargi au-delà de la préférence nationale, avec bienveillance et confiance, en se référant avec les paroles de l'Évangile.
Donc finalement, ne pas laisser l'étranger dans la misère, ne pas le laisser à son sort.
Un chrétien ne peut pas être indifférent à la question des migrants.
En Europe, les migrants viennent de partout et puis dans toute l'Europe. Tu me racontais l'autre jour une anecdote en Italie par rapport à la différence de la vision politique et de la parole du pape.
Tout à fait. Donc, pour deux raisons, en fait, c'est que l'Italie est beaucoup plus concernée géographiquement par l'immigration, donc de ces dernières années avec la crise en Syrie en particulier. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée pour les bateaux, la Méditerranée. Il y a vraiment beaucoup d'immigration qui arrive sur les côtes, beaucoup plus qu'en France. Et la deuxième raison, c'est que le pape habite à Rome, en Italie. Donc sa parole est aussi beaucoup plus forte que chez nous.
Oui, bien sûr.
Et j'étais à Rome début juillet, où en fait j'ai visité entre autres des communautés religieuses qui disaient que pour eux, la parole du pape, c'était vraiment quelque chose à respecter. Et en l'occurrence, ils ont témoigné que les couvents, les monastères, les paroisses étaient vraiment dans l'effort pour accueillir les migrants, leur offrir l'hospitalité, de l'aide, de la nourriture, et que c'était vraiment une vraie dynamique de l'Église de Rome qui s'était organisée autour de ce phénomène.
Au risque d'être illégal parfois ?
Parfois au risque d'être illégal, ouais.
D'accord. Michael, tu avais encore quelque chose à nous partager ?
Ben moi, je voulais finir là-dessus, donc pour un dernier passage dans la Sainte Bible, qui est très important aussi pour nous catholiques. Au Matthieu 25, 35-36, il nous dit quelque chose de beau et de très important. Voici un petit extrait. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu. Chaque être humain, que nous soyons musulmans, orthodoxes, chrétiens, juifs, pratiquants ou non, et de n'importe quel continent, nous avons le droit de vivre dans un pays sans guerre, de vivre heureux, en paix, d'avoir un logement, des vêtements et de quoi se nourrir. Pour finir, pensez que si un jour nous devions nous-mêmes tout quitter, nos terres, nos familles, nos travails, pour partir loin de chez nous, que vous souhaiterez recevoir un toit, des habits, de la nourriture, alors commençons aujourd'hui par aider nos frères et sœurs dans le malheur. Le Seigneur disait, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites, mais ce que vous ne faites pas au plus petit, c'est à moi que vous ne le faites pas.
Merci Michael pour ce beau texte. Valentin nous a dit tout à l'heure, il y a une pastorale des migrants. J'aimerais qu'on termine cette émission en lisant une prière que la pastorale des migrants justement a édité, a partagé. Donc voilà, si vous voulez, on peut lire chacun une des intentions. Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l'autre, d'un autre pays, d'une autre culture. Aide-nous à nous mettre en route ensemble. Imprègne-nous de ta parole, pour que nous puissions donner corps à ton évangile, en nous accueillant mutuellement dans la confiance, car chacun est porteur d'un message de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité.
On protège ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair.
En promouvant la vie de chaque personne et un vivre ensemble fondé sur la bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice et de la paix.
En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s'intégrer, d'être capable d'apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse qu'il porte en lui.
Ce n'est pas toujours une voie facile, elle demande des choix, des dépassements. Mais c'est une voie porteuse de vie et d'espérance qui mène vers ton royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs avec toi à nos côtés. Amen.
Amen. Amen.
Donc voilà, cette prière nous dit finalement le souci que porte l'Église aux plus pauvres et spécialement aux migrants. Ce que nous pouvons tous faire, nous chrétiens, c'est déjà prier pour toutes ces personnes qui sont en situation difficile. Et puis après, éventuellement, on peut peut-être apporter notre aide dans une association, si le cœur nous en dit. Alors, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission qui aura pour thème le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, merci, bon dimanche à tous.
Merci Galad.
Au revoir. Merci d'avoir participé.
Merci Galad, bon dimanche.